Bienvenue à toi dans un nouvel épisode des Entrepreneurs Nomades. J'espère que tu vas bien. Sujet du jour qui va probablement intéresser toutes les personnes qui ont été moins intéressées par les sujets de cette dernière semaine. Parce que comme tu le savais, je faisais des actions un peu spéciales semaine après semaine. Donc là, c'est la dernière semaine. Et j'ai prévu de garder le sujet de trouver sa voie, trouver sa vocation. Et j'insiste sur le « à notre époque » parce que tu vas voir qu'il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Pour la fin, parce que je me suis dit que si les personnes ne se sont pas du tout retrouvées dans mon approche par rapport au fait de tenir un blog, de partager par écrit, de monétiser un blog, etc. Ni même dans l'approche de comment est-ce que je peux créer une liste email, potentiellement vendre des programmes ou des formations internes. Ça veut potentiellement dire qu'en fait, tu sais même pas par où commencer, tu sais même pas forcément dans quelle thématique te lancer. Et donc le sujet du jour, c'est trouver sa vocation, trouver sa voie à notre époque. Et j'insiste sur à notre époque parce que c'est vraiment pas facile, je trouve, aujourd'hui. On vit dans une société, dans un contexte qui a pour but de broyer nos rêves d'enfant. Nos ambitions, de broyer nos ambitions, de broyer nos qualités humaines, tout ça. Et c'est quelque chose qui est dramatique. C'est vraiment une des pires choses, je pense, de la société moderne. Et on en revient encore souvent. Encore une fois, j'ai pas la solution pour l'instant. Moi, je constate et j'écoute beaucoup de personnes. Je lis des bouquins de philosophes, de sociologues, je lis des trucs. Ma copine me dit, mais comment est-ce que tu peux te détendre avant de dormir en lisant ce type de bouquin-là? Mais bref, moi, c'est des choses qui m'intéressent, ça me stimule intellectuellement et ça me permet d'enrichir mon spectre de compréhension du monde. Mais en gros, c'est de réaliser que le capitalisme ne sert que le capital. Et donc, tout ce qui ne rapporte pas du profit, en fait, n'a pas vraiment d'avenir. Ou alors, c'est utilisé, tu vois, par exemple, le greenwashing. Le greenwashing, on va te faire croire que c'est pour sauver la planète, que c'est pour sauver ou n'importe quel mouvement wokiste, que c'est pour la justice, etc. Non, en fait, c'est parce que ça va servir d'une manière ou d'une autre le capitalisme. Le greenwashing, par exemple, ça va permettre de vendre des trucs qui sont supposément éco-friendly. Donc les gens vont se dire, ah, mais c'est bon, si j'achète une manuelle électrique, en fait, je suis éco, donc je peux acheter. Donc en fait, ça justifie l'acte d'achat, si tu veux, des choses comme ça. Alors qu'au final, le meilleur acte écologique que tu puisses faire, c'est juste réutiliser ce que tu as déjà et ne pas acheter des choses dont on n'a pas du tout besoin. Et nous, c'est par exemple ce qu'on essaie de faire avec notre petit van de 30 ans. Qui vit sa meilleure vie, tu vois, et on n'a pas besoin d'acheter un van plus récent, tu vois, on a acheté un van seconde main qui a 30 ans, qui tourne, on s'est assuré d'avoir un bon moteur qui tiendra ad vitam aeternam. Donc pour moi, c'est aussi, par exemple, je sais pas moi, les Mariole Trotter, tu vois, sur YouTube, qui pareil, en fait, c'était un Mitsubishi, enfin, c'est un Mitsubishi aussi, L300 qu'ils ont, mais eux, ils ont un 4x4. Crois-moi que eux, ils l'ont réparé maintes et maintes fois durant leur aventure, et c'est ce qu'ils ont souvent véhiculé aussi, c'est-à-dire la vraie écologie qu'ils ont découvert en Afrique, c'est les Africains, là-bas, ils réparent tout à l'infini parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne sont pas dans une société de privilégiés, de luxe, ou qui peuvent acheter des choses dès qu'il y a un truc qui est un peu cassé, machin, on ne va pas le réparer. Donc bref, là, je digresse, mais le sujet du jour, donc, c'est de te dire que j'ai envie de te parler de ce sujet, de comment on peut trouver sa voie à notre époque, justement, et dans le contexte actuel, c'est de réaliser que y a justement énormément de choses qui sont en fait des pistes extrêmement intéressantes, qui sont des qualités humaines. Par exemple, les qualités humaines aujourd'hui ne seront plus valorisées dans la société, quasiment plus. Pourquoi ? Parce que les qualités humaines, ça ne génère pas de profit. Voilà. C'est pas quelque chose que le capitalisme va pousser, va mettre en avant, va récompenser, parce que souvent, si tu es une personne, je sais pas moi, extrêmement empathique, ça va pas générer du profit. Si tu peux être la meilleure maman du monde ou le meilleur papa du monde, tu peux avoir un don inouï pour la poésie ou pour l'écriture ou même pour l'expression orale. Tu peux être la personne la plus empathique, comme je disais, tu peux avoir une passion et des connaissances approfondies dans les plantes et leurs bienfaits, par exemple. Ce sont des choses qui, malheureusement, ne seront pas récompensées. Et c'est pour ça que quand j'insiste sur le côté à notre époque, c'est parce que tu peux aujourd'hui, quand même, je trouve, créer une activité à partir de n'importe quelle qualité humaine, de compétences ou de connaissances. Il faut juste avoir une approche réaliste. Et sans approche réaliste et pragmatique, en partant d'un vrai constat, d'une introspection, je vais parler des 6 étapes que moi je recommande de suivre, et on va en parler un peu plus en détail dans cet épisode-ci. Mais en gros, sans une approche réaliste et pragmatique, en fait, ce système, ce qu'il va faire, c'est que si tu veux vivre de ta passion, mais que tu n'as pas une approche réaliste pour répondre vraiment à des besoins problématiques, on va parler de tout ça, en fait, il va te renvoyer, s'il le faut, bosser à la caisse du Lidl, parce que tu devras subvenir tes besoins, parce que l'asservissement par l'argent. Donc voilà un petit peu alors ça sonne pas très positif, mais je te jure que cet épisode est beaucoup plus positif, parce qu'il existe encore, regarde, j'en suis la preuve vivante. Alors j'estime pas que j'ai trouvé ma voie et que j'ai une réponse quelconque et que je viens là en vous disant voilà les gars comment faire exactement. Je pense que moi je te parle souvent de mon parcours parce que je peux pas parler du parcours des autres, parce que je sais que Des retours que j'ai, ça peut potentiellement, alors j'aime pas ce terme-là, ça fait un peu condescendant, mais ça peut inspirer des personnes, en tout cas ça peut donner des idées, des pistes de réflexion. Mais ce qui est important, ça va être de suivre ton parcours à toi. Et je pense que ce qui est vraiment dramatique, je fais une très longue introduction encore, mais c'est qu'en fait justement, le contexte actuel, en fait, il broie ça dès le début. C'est-à-dire que les gens ne prennent même plus le temps de savoir qui ils sont, de faire une phase d'introspection. Donc voilà un petit peu les questions qu'on va aborder. En gros, ça va être bah, comment retrouver sa vocation? Parce que moi, je pense qu'on l'avait déjà instinctivement quand on est enfant, quand on grandit. Quand on est enfant, qu'on grandit, on a des rêves, tu vois. Alors je ne vais pas dire tu vas devenir pompier ou tu vas devenir astronaute, mais quand tu grandis dans l'adolescence, il y a des choses qui t'intéressent naturellement, tu vois. Il y a des choses vers lesquelles tu vas. On réalise assez tôt quand un enfant il est doué dans quelque chose, mais ce sauf que voilà, il faut suivre le modèle traditionnel qu'en fait, on ne va pas permettre à l'enfant. Si, je sais pas moi, il est très bon au sport, bah en fait non, il va quand même devoir faire ses études et puis le sport, ça vient après. Si la personne est excellente en chant ou en écriture, bah pareil, c'est d'abord les études, après on verra. Mais donc voilà, comment on peut retrouver cette vocation et cette voie peut-être qu'on avait plus jeune, si on ne sait pas du tout par où commencer. Comment faire une introspection réellement utile et honnête et qui va au fond des choses? Parce que je pense qu'une chose évidente, c'est si tu ne sais pas qui tu es, tu peux pas savoir ce dont tu as besoin, tu peux pas savoir dans quelle direction tu veux aller. Je pense que les gens ne prennent même plus le temps aujourd'hui de se poser, d'aller se balader, de discuter avec eux-mêmes, comme je dis souvent, c'est-à-dire aller juste te balader 1 heure ou 2 et juste laisser ton esprit vagabonder et te poser des vraies questions. On n'a même plus le temps de faire ça aujourd'hui, c'est dramatique. Comment passer de l'introspection à l'action? Parce que c'est vrai que on entend beaucoup de choses, voilà, fais l'ikigai, fais ci, fais ça, et en fait, tu verras, les réponses vont venir, mais sauf que la plupart du temps, il y a aussi, ça digresse aussi pas mal sur parfois du spirituel, tu vois, avec des choses des choses qu'on veut entendre, mais au final, concrètement, dans les faits, je vois pas que ça change grand-chose, tu vois. Le spirituel peut avoir énormément, tu vois, je maîtrise pas assez le spirituel, je pense que ça peut avoir une utilité, mais globalement, c'est vrai que c'est des choses vers lesquelles on se dirige quand on sait pas trop quoi faire d'autre, et au final, bah, c'est des choses qui nous font du bien, qu'on est content d'entendre, mais dans les faits, ça se traduit rarement, tu vois, par des actions concrètes. Au quotidien ou qui te permettent de changer ta vie. Et puis le plus important pour moi, c'est vraiment, on va parler aussi de cet aspect de comment transformer bah, cette vision, ce travail d'introspection, tu vois, à quoi tu aspires dans la vie, avec bah, les compétences et les connaissances humaines et professionnelles que tu as déjà, comment en faire une activité viable et réaliste. Et là, je pense que c'est vraiment là, je pense que c'est là que beaucoup de personnes coincent. Tu as des personnes qui ont des idées, qui ont des pistes, mais qui vont, encore une fois, finir par se faire broyer et happer par le système parce que bah, voilà, elles ne vont pas avoir une façon de mettre en place quelque chose qui va permettre de rendre ça réaliste et viable. Et ça, c'est triste parce que ça veut dire que des personnes ont identifié des choses, mais elles ne savent pas du tout. Et vu que tu ne sais pas du tout, bah, voilà, il faut que tu retournes, il faut que tu reviennes à la réalité, quoi. Il faut que tu payes tes factures, il faut que tu retrouves un job, il faut que tu retrouves un intérim, j'en sais rien. Ou alors tu peux simplement pas quitter ton job parce que bah, oui, tu as ça qui t'intéresse, mais tu ne vois pas du tout comment en faire une activité. Et donc, bah, un peu en fil conducteur de cet épisode-ci, ça va être les 6 étapes que moi je préconise pour trouver progressivement sa voie là aujourd'hui à notre époque en 2023, en 2024 et dans les années à venir. Et tu vas voir qu'il y a des approches, je pense, et des questions qui vont grandement t'aider à pouvoir identifier le tout. Et cet épisode-là, il est là aussi pour faire comprendre un message extrêmement important. C'est que je ne vais pas t'apporter toutes tes réponses là. Tu n'auras pas toutes les réponses à la fin de cet épisode-ci, mais en tout cas, tu auras des pistes. Et une phrase que j'ai entendue une fois, je ne sais plus où, mais elle m'a pas mal marqué et je trouve ça extrêmement parlant aujourd'hui et ça te parlera sûrement. C'est que beaucoup de personnes veulent trouver leur voie, trouver leur passion avant même de commencer à marcher. Et je trouve que cette phrase dit tout, parce qu'en fait, ça veut dire que tu dois juste commencer à faire des choses, à marcher, à avancer, à aller de l'avant pour progressivement trouver ta voie. Et voilà, moi, mon but avec cet épisode-ci, c'est de te faire une approche rationnelle, de pas juste te dire suis ta passion et ça va bien se passer. Non, il faut être rationnel dans le monde actuel. Il faut avoir une logique aussi un petit peu de réaliste de bah, comment je peux en faire. Moi, je pense que tout le monde a sincèrement, ça, j'en suis convaincu, même si ça peut sonner un petit peu démago ou autre, que tout le monde a quelque chose à apporter à ce monde. Tout le monde a des qualités, des dons inouïs qui lui sont propres et dans lequel il va exceller. Il faut juste trouver comment être aligné, en fait, comment les identifier, comment les exploiter et comment être aligné avec ce que tu fais au quotidien. Et trouver, en fait, ces choses en fait, dans lesquelles tu es naturellement doué, tu es unique, tu as un don, tu es excellent et tu pourrais vraiment t'épanouir et t'accomplir là-dedans. Et en même temps, bah, en faire une activité dans laquelle tu vas résoudre des problèmes et des besoins qui sont réels et qui t'apporteront une vraie sensation de contribution et pour lesquels tu seras vraiment récompensé et probablement bien plus que tu ne l'es avec ton job actuellement, autant sur le plan humain. Je pense que tu seras accompli, tu seras heureux de. Moi, je suis profondément heureux quand des personnes me font des retours incroyables, mais je suis aussi récompensé sur le plan financier, c'est-à-dire que je gagne bien mieux que quand j'étais salarié. Et je fais quelque chose en plus qui m'épanouit vachement plus humainement. Donc bref. En gros, cet épisode, il va vraiment être pour toi si. Bah déjà, merci de m'écouter, mais en gros, si tu suis ce que je partage et que tu entends souvent mes messages d'indépendance, de l'importance de s'émanciper, que tu vois en fait, parce que bah, je pense que n'importe quelle personne qui prend du recul réalise qu'en fait, bah, en fait on n'est pas libre dans une société, on peut nous dire oui, il y a des classements, tu sais, les classements officiels des pays les plus libres, mon cul, en fait, mon cul, t'es absolument pas libre parce que t'es tenu par l'asservissement, par l'argent. Et on te dit, bah oui, bah regarde, tu peux prendre un billet d'avion, machin et tout, mais on revient toujours à devoir quand même retrouver un job, tu vois, à la fin de la journée. Donc on n'est pas libre et je pense même qu'on n'est pas libre sur beaucoup de choses. Il y a plein de lois absurdes. L'État est beaucoup trop immiscé dans les vies privées des gens et ça s'appelle du totalitarisme. Et qu'on le veuille ou non, en fait, je pense que peut-être dans les livres d'histoire, d'ici 100, 200, 300, 500 ans, j'en sais rien, on pourra peut-être parler de notre époque en disant bah, c'était quand même un totalitarisme démocratique ou digital, je sais pas comment on appellera ça. Mais bref, donc si tu es réceptif à tout ça, mais juste que tu te dis bah, je sais pas quoi faire en fait, je sais pas comment, t'es bien gentil, mais dans les faits, moi j'ai des factures à payer, j'ai des obligations, bah, mon partenaire il est pas du tout dans le même délire, j'ai des enfants, au final bah, mes collègues je les aime quand même bien, j'ai pas envie de quitter mon taf, etc. Le fait est que bah, tu sais qu'en fait tôt ou tard ça risque de puer et ça pue déjà et on va vers des monnaies digitales, on va vers avec des systèmes de crédits sociaux potentiellement de quotas carbone. Je te dresse l'image un peu ouais que beaucoup de gens ne veulent pas voir, mais en fait les choses se mettent en place. Ça concrètement, va voir, tu tapes CBDC Europe ou monnaie digitale ou euro digitale, ils sont déjà dans la fin des phases de test. Donc ils font pas des tests voilà juste pour le fun, tu vois. Donc l'idée c'est de réaliser que oui, tu sens qu'il y a des choses qu'il faut mettre en place. Tu suis peut-être beaucoup d'entrepreneurs, mais en fait, concrètement, bah, tu n'arrives pas à te dire, OK, je vais me lancer là-dessus. Et cet épisode-ci, il est pour là pour toi. C'est pour t'aider en fait à trouver une cohérence entre le tout. Et qu'en fait, quand tout devient cohérent et que tu fais quelque chose avec plus de confiance, bah, en fait, tu es beaucoup plus à même de mettre en action. Et c'est vraiment ça l'optique de cet épisode-ci. C'est de t'aider en fait à trouver quelque chose qui a du sens pour toi, dans lequel tu es naturellement bon et doué. Parce que oui, tout le monde a des compétences, tout le monde a quelque chose à apporter au vivre ensemble, à ce monde, à notre vivre ensemble d'une certaine manière. Et c'est de pouvoir en faire quelque chose de viable qui va répondre à des besoins, à des problèmes. Et surtout, j'insiste infiniment là-dessus, que tout soit cohérent avec la vie à laquelle tu aspires. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer par l'étape numéro 1, c'est-à-dire comment faire une introspection honnête et utile d'une certaine manière, je te fais juste un petit mot très rapide pour te dire que je te ferai aussi un épisode pour faire un peu peut-être un retour pour les personnes que ça intéresserait. J'ai testé là donc pendant 3 semaines, j'ai fait un peu 3 semaines de promotion, tu vois, où chaque semaine des catégories de formation étaient en promotion. Cette semaine-ci, c'est la dernière semaine, donc c'est jusqu'à ce samedi. Bah, comme tu peux t'en douter avec l'épisode, cet épisode-ci, sache que cette semaine, c'est la formation Trouver sa voie et également Trouver l'équilibre, qui est plus une formation un petit peu pour garder l'équilibre en tant qu'entrepreneur. Beaucoup de personnes se crament les ailes beaucoup trop tôt, mais c'est la formation Trouver sa voie qui est à l'honneur et qui est à moins 50%. Donc c'est la seule fois, je crois que c'est la première fois depuis qu'elle est sortie, qu'elle est à nouveau moins 50%. Et en gros, pour faire court et la résumer en une phrase, c'est pour moi une nouvelle méthode d'introspection qui permet d'identifier ta réelle vocation en faisant une activité passion, entre guillemets, sur mesure, réaliste, et pour pouvoir réussir en fait ta transition vers un projet de vie qui aura plus de sens, qui sera plus indépendant et qui sera plus excitant en fait, tout simplement. C'est vraiment un aspect réaliste. Et les 6 étapes qu'on va voir là ensemble, si tu veux, je vais me baser sur la mind map en fait du programme, mais je vais forcément, bah, je peux pas aller approfondir parce que tu te dis bien que la formation fait plus de 6 heures ou 7 heures, je crois. Donc là, je vais t'en faire un épisode que je vais essayer quand même de condenser. Et ce programme, en fait, c'est pas juste un truc juste pour parler et te permettre de te poser des questions. J'insiste vraiment sur notamment l'étape 4, qui est vraiment de comment tout ce qu'on aura condensé, tu vois, il y a des vrais exercices pratiques à faire, il faut faire pause pendant le programme. Moi, je voulais que ce soit un programme actif, tu vois, et pas juste tu suis ça et puis tu arrives à la fin, bon, bah voilà, super. Non, c'est pas du tout comme ça que c'est pensé. Mais c'est surtout dans la phase 4 où là, en fait, je te donne des outils concrets et je vois vraiment avec toi. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus, j'ai beaucoup creusé, j'ai lu des bouquins, j'ai suivi même d'autres programmes, tu vois, qu'on pouvait trouver en anglais là-dessus, pour trouver les meilleures façons de convertir tout ce que tu auras identifié par rapport à ta vision, par rapport à tes compétences, tes connaissances, tes aptitudes naturelles ou même que tu aurais acquises au travail. Comment tu peux en faire une vraie activité qui va répondre à des besoins et à des problèmes? Et cette partie-là, et ensuite je te donne même un plan d'action pour le mettre en place concrètement, lancer une activité, je te fais une version condensée de certains de mes programmes les plus chers, bref, tout ça dans le même programme, et donc il est à moins 50%, et pour les 20 premières personnes, donc ça a ouvert là aujourd'hui, tu vois, mardi, bah en fait pour les 20 premières personnes, j'offre en plus des moins 50% la formation Trouver l'équilibre, qui est une formation qui permet à mes yeux aujourd'hui d'avoir le meilleur équilibre dans la vie d'entrepreneur, parce que je sais que c'est aussi quelque chose qui est sous-estimé quand on voit le nombre de burn-out, quand on voit le nombre de personnes qui entreprennent et qui vont pas forcément mieux, voire même pire, ou quand on voit le nombre de personnes qui arrivent pas à garder des habitudes saines et qui sont bouffées par la vie, qui ont pas une bonne santé, etc. Tout ça pour te dire que si tout ce que je vais te raconter dans cet épisode-ci a du sens, t'intéresse, c'est des choses qui te paraissent pertinentes et qui ont une approche logique et cohérente, bah ça pourrait t'intéresser aussi. Donc voilà, si tu veux aller jeter un œil après, libre à toi, sinon il n'y a aucune obligation. Donc, étape numéro 1, bah, la question de l'introspection. L'introspection, c'est déjà un terme, bon, on peut en parler pendant mille et une années, mais en gros, pour faire court, Moi, je considère que l'idée, c'est vraiment de savoir en fait qui tu es et quelle personne tu souhaites devenir aussi, parce que ça, on a tendance un peu à l'oublier, pour pouvoir en fait définir quels sont tes besoins et comment tu vas pouvoir faire quelque chose qui a du sens pour toi. Pour moi, je vois trois grandes questions et trois grandes approches. Alors, je distingue ici l'approche un petit peu plus personnelle, parce que si tu verras que dans l'étape numéro 2, là, on se focalise plus sur quelle est ta zone de génie. Donc, quelles sont tes compétences et tes aptitudes un peu naturelles ou qui t'attirent, ou les centres d'intérêt que tu as naturellement, qui vont te permettre en fait de toi pouvoir identifier un petit peu une zone de génie. La zone de génie, on en parle un petit peu plus, mais c'est ce dans quoi tu vas exceller plus que la moyenne des gens. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu dois être un couteau suisse et tu peux pas du tout te focaliser là-dessus, mais il faut quand même identifier la chose en fait dans laquelle tu vas être bien meilleur que les autres pour pouvoir te distinguer. Pour en revenir à cette étape numéro 1, pour moi, c'est vraiment important de reprendre le temps aujourd'hui, de savoir qui on est, de savoir ce qu'on est. Déjà revenir un petit peu à l'essentiel, on est des mammifères, on est des. Moi, je pense qu'on a quand même tendance, l'humain, c'est une des choses que je me suis fait une liste le week-end dernier, et parce que c'est un truc que j'ai en tête depuis pas mal de temps, et je me suis dit, mais un jour je veux l'oublier. Et en fait, c'est je me suis fait une liste avec les leçons de vie. Tu vois, les trucs, ça fait plusieurs années que j'ai constaté et qui ne font que se confirmer. Et c'est des choses, par exemple, il y en a une que j'ai mise, c'est par exemple, l'humain a quand même une capacité incroyable à s'inventer des histoires et à se raconter des histoires et à se trouver en fait des coïncidences, machin, pour pouvoir justifier n'importe quelle façon de penser ou de vision ou réflexion. Et tu vois, par exemple, on a tendance à oublier qu'on est juste en fait à la base des animaux, qu'on vient du monde mammifère, qu'on est juste l'évolution, Darwin, etc. Et en fait, on est devenu aujourd'hui des êtres extrêmement développés de par la conscience et notre cerveau. Je n'ai pas toutes les réponses à savoir pourquoi nous, notre espèce, est devenue autant évoluée sur le point psychique, intelligence, etc. Mais le fait est que on a tendance quand même souvent à se raconter énormément d'histoires sur plein de sujets. Donc la première phase, en fait, c'est vraiment de savoir, de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire qui on est, d'où on vient, etc. Et simplement se dire qu'on est des mammifères, qu'on n'est pas supposé vivre dans des grandes villes entourées de bitume et complètement déconnectées du vivant. Moi, je pense que si on continue comme ça, absolument toute la population finira folle, tu vois, finira aliénée. Je sais que je vous parle souvent de ce concept-là, les gars, mais si vous ne comprenez pas exactement ce que je veux dire par aliénée, je pense que sur toutes les plateformes, j'ai déjà invité toutes les personnes à aller écouter ne serait-ce que l'épisode d'une vingtaine de minutes sur le podcast Le Précepteur. Vous tapez Aliénation Précepteur, il est sur YouTube, il est sur Spotify, sur tous les épisodes. En fait, c'est un concept de Marx qui explique que l'aliénation, pour faire très court, c'est quand le système en place, tu vois, la société, a réussi à remplacer la conscience des gens, leur faisant croire que leur conscience, c'est celle en fait qui va servir le système. En gros, pour faire court, par exemple, une personne qui va se dire oh, je me sens pas bien, je vais aller faire du shopping, j'irai mieux après. Ça, c'est non, c'est pas le shopping. Le shopping, si tu veux, c'est le truc qui va te faire plaisir pendant une journée, mais c'est pas ça qui va te rendre plus heureux, tu vois. En fait, c'est remplacer la conscience des gens, leur faisant croire que ce dont ils ont besoin, c'est quelque chose en fait qui sert le système, alors que c'est pas vraiment ce dont ils ont besoin. Si une personne se sent mal et déprimée, a besoin de faire du shopping ou du chocolat pour aller mieux dans sa vie, c'est pas parce qu'elle va manger du chocolat ou faire du shopping que ça va aller mieux dans sa vie. C'est peut-être qu'elle a besoin de changer de mode de vie, de façon de vivre, de retrouver la nature, de retrouver un entourage plus sain, j'en sais rien. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai fait la version très courte, mais c'est vraiment un concept qui vous permet de voir le monde de façon beaucoup plus clairvoyante, je trouve. Et donc je pense que pour revenir à soi, tu as très peu de personnes vont faire ce travail un petit peu plus profond, mais je trouve que c'est celui-là en fait qui va faire toute la différence. C'est en fait pour déjà se redécouvrir, il faut, je pense, vivre des choses nouvelles. Si tu restes dans un quotidien qui est figé, à faire les mêmes actions toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, tu peux pas t'attendre à devenir une personne du jour au lendemain, tu vas découvrir ta nouvelle passion ou tu vas découvrir qui tu es. Il faut qu'en fait tu passes à l'action, il faut que tu te mettes dans des contextes différents. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à recommander pour te donner une des recommandations que je développe par exemple dans le programme, c'est qui est pas valable pour tout le monde, mais c'est par exemple le voyage au long cours. C'est pour ça que moi, les gars, il y a une cohérence dans tout ce que je vous raconte, c'est que si j'encourage autant et que j'ai toujours vraiment maintenu une activité importante dans mon activité par rapport à parler du PVT, encourager les gens à partir en PVT qu'ils le peuvent, que ce soit en Australie, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, c'est parce que c'est une expérience qui va non seulement être hyper riche et vous permettre de vous créer des souvenirs parmi les plus marquants de votre vie, mais en plus parce que vous allez vous redécouvrir. Quand tu es en PVT, tu es en permanence confronté à des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres, des nouvelles situations, et donc tu vas découvrir qui tu es. Tu vas être dans des contextes où tu vas devoir t'adapter, et donc ça va te permettre de te retrouver bien plus que. Ou ça peut être pas que le PVT, ça peut être le voyage au long cours en mode backpack, ça peut être partir en road trip pendant plusieurs semaines. Juste en fait faire des choses différentes. Sinon, en fait, s'il n'y a pas l'option du PVT, forcément, il y a encore une fois l'option du backpack ou potentiellement de partir vivre ailleurs pendant une période donnée, mais ça peut être aussi simplement d'expérimenter, sortir de ses habitudes, expérimenter de nouvelles choses au quotidien. Je sais pas, moi, t'es passionné peut-être de théâtre depuis très longtemps ou de chant. Bah, tu vois, par exemple, là, notre colloque duo, qui a, elle aussi, elle traverse beaucoup de périodes complexes, tu vois, d'un point de vue santé, etc. Et moi, j'essaye parfois d'avoir des discussions pour la mettre sur des pistes. Bah, là, tu vois, par exemple, elle a décidé de se réinscrire à une chorale. Et parce que bah, elle a toujours été passionnée de chant, sauf que ça fait des années qu'elle n'a pas pris le temps de le faire. Et bah, là, voilà, elle a pris sur elle, elle a dû reprendre un peu des cours de chant, se réentraîner, etc. Et elle a dû passer une audition, elle a été acceptée. Et tu vois, c'est des trucs qui vont. Ça peut être que positif, tu vois, de faire des choses nouvelles comme ça, qui t'appellent naturellement. Et je trouve ça inspirant, tu vois, quand les personnes bah, voilà, décident de. Vas-y, je fais quelque chose, j'arrête de subir, là, et je fais un truc qui va potentiellement faire du bien. En tout cas, je teste. Et peut-être que dans un an, elle sera hyper épanouie de faire ça. Peut-être que dans un an, elle en aura marre, mais au moins, elle aura fait des choses. Et donc, sinon, bah, il y a aussi des activités, simplement au quotidien, que tu peux essayer bah, de sortir un petit peu ta zone de confort. Mais je pense que cette phase est extrêmement importante. Tout comme la phase aussi d'analyser un petit peu bah, qu'est-ce que je fais de mon temps libre. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux prendre le temps? Est-ce que tu as déjà encore du temps libre? J'espère que oui. Mais en gros, quand tu as du temps libre, qu'est-ce que tu fais? Et bon, là, forcément, j'espère que tu n'accluras pas les réponses. Bah, je vais me poser devant Netflix ou je vais scroller sur Instagram ou finir devant YouTube. Je pense qu'on doit réapprendre en fait à utiliser notre temps libre de façon plus judicieuse que se zombifier le cerveau. Alors, encore une fois, c'est toujours à préciser, parce que tu peux, oui, apprendre des choses. Moi, je suis des chaînes YouTube aussi. J'avoue que le contenu divertissement, j'en parlais aussi avec d'autres créateurs, mais je consomme très peu. Et en fait, la réalité, c'est que je réalise que moi, ce que j'encourage, c'est que les gens arrêtent de me suivre, en fait. Parce qu'en fait, quand toi, t'es trop occupé à entreprendre, à faire des choses, en fait, t'as plus le temps T'as plus le temps de suivre le contenu des autres tout le temps, tu vois. T'as plus le temps de suivre des dizaines de chaînes YouTube. T'as plus le temps de suivre des dizaines ou des centaines de comptes sur Instagram. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu as besoin de faire des choses pour toi. Au final, c'est ce qui est un peu paradoxal, c'est que oui, tu peux aussi être suivi par des personnes. Moi, par exemple, je vais suivre quelques créateurs, d'entrepreneurs qui sont plus loin que moi parce qu'ils ont des choses à m'apporter. Mais je suis très peu de contenu qui est un peu divertissement, qui m'occupe le cerveau sans vraiment apprendre des choses, tu vois. Donc la réalité, c'est qu'en fait, oui, moi, j'aspire à ce que bah, potentiellement, tu n'aies plus le temps de me suivre parce que tu seras trop occupé à développer ton truc. Et paradoxalement, il y a très peu d'entrepreneurs qui t'avoueront ça parce que la plupart des gens qui captent l'attention, c'est le business de l'attention, c'est ce qui vaut le plus au monde aujourd'hui, c'est capter l'attention des gens. En fait, la plupart des gens veulent que tu restes ad vitam aeternam avec eux. Maintenant, je me dis que j'essaye aussi de me dire que même si un jour, bah, tu bosses sur des projets, bah, tu auras envie peut-être d'apprendre des choses et qu'à force du contenu que je partage, bah, il y a peut-être des choses un jour, si je sais pas, moi, si je sors une formation sur l'accompagnement ou comment créer son coaching. Bah, peut-être que c'est le genre de choses qui te servira tôt ou tard et ça t'intéressera. Donc, bref. Mais l'idée, c'est quand même un petit peu ça au final. Donc, pour en revenir à la question, bah, c'est de se dire, voilà, que fais-tu de ton temps libre? Si tu aimes lire, par exemple, quel type de bouquin tu vas lire? Si tu aimes faire des activités manuelles, quel type d'activités manuelles tu aimes faire? Si tu aimes passer du temps en nature, bah, qu'est-ce que tu fais? Essaye d'aller chercher, si tu fais du sport, bah, quel type de sport? Pourquoi? Et donc, essayer de chercher, d'identifier, de lister des choses comme ça peut être intéressant. Dernier point aussi que je vais évoquer par rapport à ici, ensuite, j'avancerai un petit peu plus sur les étapes, mais quelles sont tes sources d'inspiration? Et là, forcément, il y a plein de spectres. Tu vois, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des philosophes, ça peut être ton entourage. Quelles sont tes sources d'inspiration et pourquoi ces gens-là ou ces choses-là en fait t'inspirent? Ça aussi, ça peut dire des choses sur toi. Donc après cette première étape qui est plus focalisée sur le toi en tant que personne, tu vois, sans forcément te soucier de compétences, de connaissances, juste vraiment ce qui t'attire et qui tu es, d'où tu viens et ce à quoi tu aspires. Il y a aussi un travail sur la vision que je trouve souvent très important, mais ça on en parlera un petit peu après. Parce que tu verras que c'est plus cohérent d'en parler juste après. Mais la deuxième étape pour moi, c'est plus une sorte de bilan de connaissances, d'aptitudes et de compétences que tu aurais déjà, ou que tu aurais déjà acquises, que ce soit sur le côté parce que c'est quelque chose qui t'attire naturellement, ou que ce soit via ton job aussi. Parce que si tu as des compétences bah, professionnelles déjà acquises depuis des années, bah, c'est peut-être utile de se baser là-dessus aussi pour commencer, tu vois. Donc là, il y a plusieurs questions à se poser, c'est-à-dire essayer déjà de savoir bah, quelles sont mes qualités et mes défauts, tu vois, très objectivement. Il y a des exercices très pratiques pour ça. Ça peut être aussi bah, forcément de prendre le temps de lister ses compétences, tu vois, les habiletés aussi, tu vois, c'est des choses que. Je vais prendre un exemple, oui, tu peux taper si ça peut t'aider, tu vois, par exemple, tu tapes liste compétences professionnelles et tu vas avoir, je sais pas moi, une liste et après, bah, voilà, tu les prends une par une et tu vois lesquelles tu peux lister pour toi, par exemple. Mais sinon, il y a aussi ce qu'on peut appeler un peu des habiletés naturelles, tu vois, ça peut être, par exemple, tu es très organisé. Tu vois, par exemple, bah, en fait, ça pourrait être un point de départ parce que si tu es très organisé naturellement et que tu aimes bien que les choses soient bien organisées, potentiellement, tu peux aider d'autres personnes qui ne le sont pas à devenir plus organisées dans leur vie. Mais ça, c'est des choses qui peuvent avoir de la valeur aussi. Je suis sûr que ça existe des formations ou des programmes ou du contenu sur l'organisation, tu vois, pour mieux organiser, je sais pas moi, son chez-soi ou son travail ou ce genre de choses. Et donc ensuite, ça pourrait t'amener vers la productivité, par exemple. Bref. Mais donc l'idée, c'est d'essayer de toi les identifier. Encore une fois, que tu les acquises sur le côté personnel, en faisant des activités, en ayant des hobbies, ou sur le plan professionnel, via ton job, pourquoi tes collègues t'apprécient, pourquoi même là sur le côté plus personnel, mais pourquoi tes proches t'apprécient, est-ce qu'ils apprécient certaines qualités chez toi, ce genre de choses, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles tu devrais peut-être au contraire t'améliorer, tout ça, c'est des choses à faire, évidemment. Autre exercice intéressant, alors je te passe aussi certaines choses parce que forcément sinon j'y passerai des heures, mais ça peut être intéressant déjà de réfléchir à, tiens, s'il y a des secteurs naturellement qui t'attiraient, parce que bah, si tu travailles dans cette boîte-là par exemple ou dans cette thématique-là, c'est peut-être que tu avais déjà un intérêt naturel. Alors il y a des personnes qui reprennent des jobs par défaut, mais dans certains cas, bah, c'est peut-être que voilà, au final tu bosses dans cette boîte-là parce que tu as un attrait, je sais pas moi, tu bosses dans une société de karting, bah, c'est peut-être parce que tu as déjà un intérêt pour la course ou ce genre de choses. Je prends un exemple bête, mais en fait l'idée c'est d'identifier peut-être déjà les compétences souvent qui sont requises par type de secteur. Donc si je te prends juste le sport par exemple, bah, c'est en général que tu vas être une personne plutôt dynamique, que tu vas avoir une capacité à motiver les autres, que tu vas être enthousiaste dans le fait de transmettre ta passion, que tu vas bien motiver aussi les autres comme je le disais, que tu vas avoir des connaissances un peu basiques en nutrition ou en sport, alors basiques certains vont approfondir ou pas, mais en tout cas, tu vas avoir des connaissances d'un point de vue santé qui sont intéressantes. Donc l'idée, c'est d'identifier un petit peu bah, voilà, par thématique. Tu vois, je parle l'artisanat, je te donne un autre exemple. Bah, ça va être des personnes qui vont être plus habiles en général, qui vont être assez précises, qui vont pouvoir faire des choses de façon patiente, qui vont être plutôt organisées aussi, qui vont être créatifs, qui vont gérer plusieurs projets. Donc l'idée, c'est déjà de te dire, OK, je bosse dans quel secteur et quelles aptitudes sont en général requises. Donc en fait, ça va te permettre d'identifier des nouvelles aptitudes pour toi. Parce que si tu bosses dans ce secteur-là, tu auras peut-être certaines de ces aptitudes-là. Dernier point ici que je peux essayer de te résumer rapidement, qui est pour moi très intéressant aussi à creuser et à approfondir avec des exercices, mais c'est la question de la zone de génie. En gros, tu peux identifier quand tu travailles, par exemple, quand tu fais une tâche, un peu quatre zones. Tu as la zone d'incompétence, donc là, c'est en gros les autres vont être plus compétents que toi pour le faire parce que c'est pas quelque chose qui fait partie des choses dans lesquelles tu es bon. On en a plein, c'est normal. Tu as la zone de compétence et tu vas voir que sur les quatre, bah, c'est souvent là en fait que les gens vont être coincé en fait dans leur travail. C'est des choses que tu peux faire en fait, mais d'autres personnes pourraient le faire. Donc en fait, tu pourrais être remplaçable très clairement. Mais là où c'est encore plus frustrant et problématique, c'est là où bah, c'est à cause de ça que la plupart des gens ne sont pas heureux au travail et se sentent en fait, se demandent pourquoi je fais ce job-là, ça sert à rien. Parce qu'en fait, tu vas souvent être bloqué dans une zone de compétence avec des tâches qui vont souvent être rébarbatives, les mêmes. Même si moi, tu vois, par exemple, dans mon job de CDI, j'avais quand même pas mal de liberté, on bossait sur plein de projets différents. Le processus était quand même souvent le même. Et donc très vite, après un an, bon, j'avais fait le tour, quoi, tu vois. Et ça, c'est le pire truc, c'est que, en fait, tu sais faire quelque chose, ok, mais en fait, la boîte veut que tu fasses juste la même chose toute ta vie, quoi. Et pendant 30, 40 ans, et je me demande comment on peut faire ça, surtout quand tu es assis derrière un écran à faire les mêmes choses. Enfin, c'est un truc qui est. Tu peux pas être épanoui et t'accomplir là-dessus, tu vois. C'est juste, en fait, c'est à un moment donné, très vite, ça devient juste le job que tu fais juste pour payer les factures, quoi. Mais t'as aucun accomplissement, aucun plaisir, à part peut-être quelques collègues avec qui tu t'entends bien, mais sinon, voilà, c'est quelque chose qui est dramatique parce que bah, l'humain ne s'accomplit, enfin, l'humain s'accomplit quand il se dépasse. L'humain s'accomplit quand il grandit, quand il peut utiliser sa créativité. Justement, bah, là, tu n'y es pas. Ensuite, il y a la zone d'excellence. Donc là, tu es meilleur que les autres. Donc les autres ne peuvent pas forcément te remplacer aussi facilement. Mais on ne fait pas appel à la créativité. Donc c'est déjà mieux. Hein, tu fais quelque chose, tu es extrêmement bon. Et donc, en fait, tu sens que tu es bon là-dedans. Tu pourrais faire même encore mieux. Tu pourrais développer de nouvelles idées, apporter des choses. Mais voilà, tu dois quand même rester dans ce que tu fais de façon excellente. Et ensuite, il y a la zone de génie, qui est la dernière, qui est la zone dans laquelle, bah, en fait, personne ne pourrait faire ce que tu fais. C'est-à-dire que tu es excellent, mais en plus, ta créativité va faire en sorte que tu vas développer des nouvelles idées, des nouveaux process, des nouvelles choses. Tu vas pouvoir être libre aussi de pouvoir faire évoluer ce que tu fais, et de pouvoir faire évoluer ton activité et tes tâches, par exemple. Et donc, bah, là, tu es vraiment dans la zone d'excellence. C'est là qu'en fait, tu es la plus efficace possible. C'est là où tu es la plus épanouie. C'est là où tu es le meilleur dans ce que tu fais. Et donc, ces zones-là, je pense qu'on a tous des zones de génie, peu importe la thématique, peu importe la façon de faire. Et malheureusement, bah, dans le monde moderne aujourd'hui, c'est plus du tout quelque chose qui est mis en avant. Troisième étape ici, et c'est là où tu vas voir que tout commence à prendre du sens, c'est qu'après avoir identifié, bah, toi sur le plan personnel, ce qui t'inspire, qui tu es, à quoi tu aspires, ce qui t'attire naturellement, etc. Et également après avoir identifié, bah, plus tes compétences, tes aptitudes, tes connaissances naturelles, qu'elles soient professionnelles ou humaines, encore une fois, j'insiste, les compétences humaines sont. Voilà, je l'ai déjà dit en intro, mais elles sont hyper importantes. Tu vois, une personne extrêmement empathique, une personne à l'écoute, une personne qui est bienveillante, une personne qui est protectrice, tout ça, c'est des qualités humaines en fait qui sont pas récompensées dans le monde actuel, mais tu peux en faire quelque chose. Donc, bref, après avoir identifié ces deux phases-là, bah, en fait, l'idée maintenant, c'est de libérer des croyances limitantes pour pouvoir oser rêver de la vie idéale sur tous les aspects. Et je ne parle pas de la vie idéale en mode juste partir vivre à Bali, je pense vraiment de la vie idéale profonde sur laquelle tu te vois dans les 30, 40, 50 ans et dans laquelle tu as envie de te poser et tu n'as pas besoin d'artifices ou de choses folles et dingues, mais juste tu serais heureux et épanoui de faire ça. Et pour moi, c'est important de faire ça uniquement après les deux premières phases parce que tu as plus d'informations pour pouvoir te dire mais jusqu'où je peux rêver d'une certaine manière. Et ça, je pense que cette phase-là est extrêmement importante dans le sens où, comme je le disais, le système, il a pour but de broyer, en fait. En fait, plus tu grandis, plus tu te contentes. C'est un peu, je sais pas comment le dire autrement, mais en fait, ouais, tu prends un enfant, il a envie de faire, il n'a pas de limite, tu vois, dans sa façon de rêver. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont prouvé, hein, j'ai plus du tout ça, mais j'ai entendu passer ça à une époque dans un podcast. Mais en gros, plus l'âge augmente, moins les gens sont créatifs. Et moins les gens sont capables d'imaginer des solutions, de trouver des idées, par exemple, je sais pas moi. Alors juste pour te donner une idée, c'est pas l'étude en question, mais un exemple un peu parlant, par exemple, c'est tu mettrais un enfant, je sais pas moi, de 4-5 ans face à un ciel avec plein de nuages, avec plein de formes, il va peut-être identifier 20-25 formes, tu vois, des choses auxquelles ça fait penser. Ensuite, tu mettrais un enfant de 8-9 ans, il va peut-être en trouver que 18-17. Ensuite, tu mets un enfant de 12-13 ans, bah, peut-être que ce sera plus uniquement que une quinzaine. Ensuite, tu mettrais un adolescent de 16-17 ans, bah là, ce sera plus qu'une dizaine. Et puis l'adulte, il en verra plus peut-être que 3-4. Et puis plus tu avances comme ça, et plus tu perds la créativité, et c'est une chose qui fait qu'on est spéciaux, quoi. Les humains sont spéciaux. Ce qui fait la richesse de l'humain, c'est sa créativité, c'est sa conscience aussi. Et donc, bah ça, il faut le retrouver. Et donc, pour ça, il faut se libérer des croyances limitantes. Et donc, c'est la phase numéro 1. Il y a tout un travail là-dessus, que je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais pour moi, il y a plein de choses à faire pour faire tomber toutes les barrières, les blocages mentaux, etc. Et crois-moi que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais si tu tacles ce problème-là, qui est ô combien important, bah, tu recommences en fait à rêver et tu recommences en fait à imaginer des choses que tu ne pensais absolument pas possibles. Et au final, bah, plutôt que de te dire, bah oui, mais nous, en fait, tu t'inventes plein d'excuses, mais non, en fait, ce sont des pensées limitantes. Si je te dis qu'un jour, tu serais capable de faire 10 000 euros par mois avec ton activité et que ça te paraît complètement fou maintenant, bah, c'est une pensée limitante parce que oui, c'est parfaitement possible si tu as les bonnes méthodes, si tu as les déclics, oui, potentiellement, ça peut aller plus vite que tu ne le penses. Donc, il y a plein de choses. Alors là, je te parle d'argent, mais si tu te dis par exemple tu pourrais courir un marathon, bah beaucoup de personnes vont dire oh non, c'est pas pour moi, j'ai pas le temps de m'entraîner et tout. Bah en fait, concrètement, si tu le veux vraiment, tu pourrais courir un marathon. Tu vois, on a tous déjà vu une personne, ou que ce soit sur les sociaux, mais par exemple, moi j'ai des potes maintenant qui sont vraiment déter dans le fait de se remettre à fond au sport et de se mettre des défis qui sont difficiles à croire, mais j'ai confiance en eux, tu vois. Je me dis s'ils veulent le faire et qu'ils en ont les moyens, ils peuvent le faire, tu vois. Donc forcément, il y a ce travail à faire en parallèle sur les croyances et les blocages. Il y a pour moi des façons concrètes de voir les choses différemment aujourd'hui, de s'en libérer progressivement. C'est pas par magie que les gens entreprennent du jour au lendemain, c'est juste des gens qui osent d'une certaine manière et c'est une question de déclic mentaux. Il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de il est né avec plus d'aptitude ou. Il y a une phrase qu'on entend souvent, c'est que oh, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Bon, entreprendre sa vie, c'est absolument fait pour tout le monde. Je veux dire, n'importe quelle personne veut entreprendre sa vie. C'est juste qu'en fait, après, bah, le système fait que bah oui, tu te dis que c'est pas pour toi, alors que potentiellement, tu es parfaitement capable de le faire autant qu'une autre personne, peut-être même mieux qu'une autre personne. Mais donc, une fois cette première phase faite, ensuite, c'est quelle personne tu souhaites devenir. Et là, bah, il y a pas mal d'aspects. Forcément, il faut s'autoriser à rêver. Il faut savoir aussi se demander bah, qu'est-ce que je ferais de mes journées, en fait, sans être payé. Qu'est-ce que j'aimerais faire de mes journées, tout simplement. Qu'est-ce qui me ferait plaisir, en fait. Qu'est-ce qui m'apporterait de l'accomplissement. Qu'est-ce qui m'apporterait ouais, de l'utilité, la sensation de contribution, j'en parle souvent. Si tu peux aussi faire un exercice qui est intéressant, que je donne aussi, c'est par exemple, bah, si tu vivais dans une communauté, tu vois, dans laquelle il n'y aurait pas forcément d'argent qui circulerait, quel serait ton rôle? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu vois, est-ce que tu voudrais t'occuper des enfants? Est-ce que tu voudrais plus t'occuper des animaux? Est-ce que tu voudrais plutôt t'occuper de l'organisation de la vie dans la communauté? Est-ce que tu voudrais plutôt fabriquer des vêtements? Est-ce que tu voudrais plutôt t'occuper de fabriquer de nouvelles maisons? J'en sais rien. Donc, je te donne des exemples, mais c'est des exercices pragmatiques comme ça. Alors là, je t'en donne un, mais il y en a beaucoup plus qu'on voit. Il y a aussi l'exercice des trois pourquoi. Essayer de chercher chaque fois pourquoi, en fait, quand tu donnes une réponse, pourquoi est-ce que je me suis donné cette réponse-là? Et de creuser un peu plus loin. Ça permet d'aller plus loin dans la réflexion. Et puis sinon, bah, aussi la phase 3, c'est de se demander voilà, concrètement à quoi ressemblerait la vie à laquelle tu aspires. Et ensuite, il y a toute une partie un peu sur la vision. Et la vision ici, bah, je ne vais pas avoir le temps de détailler parce que l'épisode est déjà trop long et que j'aimerais encore faire les trois étapes suivantes. Mais en gros, c'est de se dire que tu as besoin, moi je pense que c'est essentiel de savoir dans quelle direction tu veux aller, quel est ton cap. Globalement, il faut vraiment t'imaginer, tu as un voilier, tu vois, tu es en plein milieu de l'océan. Et en fait, si tu n'as pas de cap et de direction, en fait, juste tu erres dans l'océan. Mais si tu sais un peu dans quelle direction tu veux avancer, et qu'après tu adaptes en fonction du vent, en fonction des vagues, en fonction des choses que tu vas voir, en fonction de la terre, est-ce que c'est vraiment d'une île que tu vas croiser, est-ce que c'est là que tu veux t'arrêter ou pas. Tu vois, c'est essayer de visualiser le fait que tu as un voilier, tu veux, et tu dois définir un cap. Et je pense qu'il y a une citation qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en fait, la quête du bonheur en tant que telle n'a pas de sens. C'est parce que c'est quand tu seras justement dans ta quête de sens, et c'est dans une quête perpétuelle de sens, que tu finiras par être heureux. Il faut se dire que c'est pas à l'arrivée que tu es heureux, c'est quand tu fais les choses, c'est quand tu es en train de les faire. Il faut déjà profiter du plaisir en fait de faire les choses et d'avancer. Et pour moi, le plus important, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu te lèves. Et donc, ce travail-là, on le fait sur la vision, c'est d'essayer de définir, ben voilà, pour chaque pan de ta vie, à quoi ça ressemblerait dans les 5-10 prochaines années. Et pour moi, en fait, c'est un travail qui est extrêmement important. Un autre exercice que je peux déjà te donner quand même, par exemple, c'est d'essayer de te faire une sorte de vision board. Donc, d'essayer de collecter des images avec des choses qui t'inspirent. Ça peut être des citations, ça peut être des images, ça peut être ta maison idéale, ça peut être ta vie de famille idéale, j'en sais rien, ça peut être ton entourage, ça peut être des activités. Mais ça te permet de visualiser un peu plus les choses et de concrétiser potentiellement ta vision idéale. Quatrième grande étape, et je pense que c'est là un peu que, comme je le dis souvent, la magie opère. C'est là où je pense que, pour être honnête avec toi, trouver sa voie et un programme qui est différent des autres, c'est parce que tout le travail qu'on vient de faire là, sur les 3 premières étapes, ensuite c'est de rassembler le tout et de faire en fait en sorte que tout puisse avoir du sens et devenir une activité qui est réaliste. Et je pense qu'à notre époque, le pire c'est que j'ai déjà eu des personnes, tu vois, avec des appels, des personnes qui veulent se lancer, qui ont des idées et qui ont, comme je te disais, tu vois, qui sont par exemple passionnées d'écriture. La réalité, c'est qu'en fait, c'est très très compliqué aujourd'hui de vivre juste de tes écrits. C'est possible, hein, mais je sais pas, le monde de l'édition, moi j'ai publié un livre. Je peux te garantir que c'est beaucoup plus complexe qu'on y pense, qu'on ne le croit. Et en plus, à la fin de la journée, si tu passes par une grosse maison d'édition qui va t'apporter la visibilité pour ton bouquin, tu touches vraiment peanuts, tu vois, sur ton livre. C'est-à-dire que c'est toi qui l'as écrit. Et encore, moi, j'ai eu la chance d'avoir un partenariat, enfin un deal avec Larousse, où j'ai fait juste vraiment l'écriture. Mais j'ai pas fait tout ce qui est mise en page, tout ce qui est image, etc. C'est vraiment eux qui ont fait le gros du travail. Et je peux te garantir, ça m'a demandé énormément de temps et d'énergie. Et quand je vois ce que je touche par livre à la fin, c'est vraiment, tu vois, c'est pas grand-chose. Donc ça, c'est la vie. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des personnes qui ont des très belles idées, qui ont des aptitudes, mais il faut trouver des façons de mieux d'en faire une activité qui sera plus viable pour toi. Et donc, par exemple, une personne que j'encourageais par rapport à cet aspect-là, tu vois, elle était passionnée d'écriture, elle avait déjà écrit beaucoup, elle avait acquis des compétences, c'est que je l'encourageais en fait à plutôt être sur la transmission aussi. Tu vois, ok, aider des personnes à se lancer, à écrire, à juste améliorer, pas forcément écrire juste pour l'argent, mais juste, voilà, est-ce que je peux aider des personnes? Il y a sûrement des personnes qui apprennent à écrire et qui cherchent, en fait, qui se renseignent sur comment écrire un livre, comment, par où on commence, parce qu'elle, elle avait déjà quand même publié des livres aussi. Je lui disais, essaie de baser quelque chose un peu sur la transmission aussi. Tu vas aider des personnes, tu identifies quelles sont leurs problématiques, quelles questions ils se posent quand ils veulent commencer à rédiger, quel style le livre, comment on commence à structurer un livre, par où on commence. Idem pour la poésie. Et je lui dis, écoute, essaye aussi de développer ça. Donc, en fait, c'est bref, ça travaille. Là, je te donne un exemple précis, mais c'est de rassembler le tout. Et donc, par moi, il y a pas mal d'étapes et des étapes clés en fait à suivre pour faire cette conversion-là. Il y a des outils concrets, c'est déjà identifier un petit peu les erreurs de base que font toutes les personnes qui se lancent. C'est identifier aussi un peu les besoins temporels et essentiels de l'humanité. Parce que si tu te retrouves dans les catégories de besoins qui seront propres à l'humain, peu importe l'époque, la situation, le contexte, en fait, tu seras jamais obsolète, tu vois, ton activité sera jamais obsolète. Tandis que plus tu vas aux besoins essentiels, on va dire même physiologiques, tu vois, ça peut être le fait de se nourrir, ça peut être consommer de l'eau, ça peut être simplement avoir des relations humaines importantes, bien développées, etc. Tout ça fait partie de nos besoins les plus fondamentaux. Et donc, si tu vas vers ces problématiques-là, elles seront toujours présentes. Mais déjà, un bon point de départ, c'est de se retrouver dans un des besoins essentiels, tu vois. Et par exemple, il y a un grand top 3 qui ressort souvent, ça va être la santé, avec toutes les thématiques qu'il y a dans la santé, le relationnel, tu vois, les relations hommes-femmes, les relations amicales, les relations sociales, et tout ce qui va être, alors maintenant on appelle ça la finance, l'argent, moi c'est plus subvenir à tes besoins, parce que je t'avoue que à la fin de la journée, mon but, moi, c'est plus d'être riche, mais c'est de moins en moins de dépendre du système financier actuel. Et donc, en fait, in fine, c'est subvenir à mes besoins et pouvoir être, subvenir à mes besoins, à ceux de mes proches, à ceux de ma future famille aussi, sans forcément dépendre du système d'une certaine manière. Alors ensuite, il y a une phase, je vais pas pouvoir tout te dire parce que là, il faut quand même que je garde des choses, parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai énormément bossé, avec les 7 critères clés, en fait, pour t'assurer de maximiser les chances de créer une activité viable. Et en fait, si tu coches ces 7 critères-là, pour moi, tu as de grandes chances que les choses se passent bien pour toi, autant sur le point humain pour toi, plaisir, évolution, que sur l'utilité de ton activité. La première, pour t'en donner quand même déjà une, c'est établir le lien, un lien direct entre une catégorie de besoins essentiels et temporels et ton projet d'activité. Et quitte à devoir l'adapter un petit peu pour que ça réponde vraiment à des besoins et des problèmes actuels là maintenant et atemporels. Moi, je pense aussi que je n'exclus pas, tu vois, c'est un truc au début que j'avais plus tendance à exclure, mais pourquoi pas au début partir sur du freelancing? Ça te permettra déjà de développer quelque chose, de moins devoir faire un travail profond parce que tu peux identifier quand même des besoins en tant que freelance plus facilement que si tu veux combler les besoins humains, tu vois, d'une certaine manière. Mais je pense que ça peut être passer par un peu une phase de freelancing. Ce n'est pas une finalité pour moi le freelancing, ça peut être un bon tremplin, mais ça peut être une option aussi envisageable. Et ça aussi, on l'aborde un peu plus en détail. Et donc une fois ce travail-là fait, ben, on en arrive à la cinquième et à la sixième étape. Et je vais faire un peu plus court pour pas que l'épisode soit vraiment interminable. Pour moi, la cinquième étape, c'est vraiment se faire un plan d'action intelligent pour faire pour entamer une émancipation et une transition professionnelle qui sera la plus sereine, la plus méthodique et la plus intelligente possible. Et ça veut dire, bah, potentiellement, non pas juste faire un plan d'action pour développer une activité, mais avoir un plan d'action pour un projet global et cohérent de vie entre ton activité et la vie à laquelle tu aspires. Et donc forcément, oui, il y a des étapes concrètes à suivre par rapport à ça. Notamment, bah, déjà pour moi, redevenir un petit peu plus conscient du monde dans lequel on vit et arrêter de tomber dans tous les pièges. Et de croire que si tu votes à gauche ou à droite, ou au milieu, ou en diagonale, ou en oblique, ça ira mieux dans les 5 prochaines années. Le système est fermé, en fait. Nathan, pour moi, il faut juste réaliser qu'il ne faut plus rien attendre de nos états actuels tant que le système dans lequel on vit sera celui-là. Je ne sais pas comment ce sera quand ça s'effondrera ou autre, ce sera très moche, et les personnes qui se seront émancipées le vivront mieux. Mais déjà, ça ne sert plus à rien d'attendre que les choses s'améliorent dans le quotidien des gens. Tu vois, là, ils sont dans la phase finale de leur truc où ils veulent tout détruire, donc il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Tu vois bien que les crises s'enchaînent, les guerres s'enchaînent. On est dans une volonté, là, en tout cas, pour nous, ce qui nous concerne, l'Occident, de déconstruction de l'Occident, si tu veux. Et bon, c'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui creusent ça depuis très longtemps, qui lisent énormément de bouquins, etc., et que moi-même j'essaie d'écouter, et que moi-même j'essaie de lire, tu vois, petit à petit. Mais si tu veux, on est dans une phase de déconstruction, de destruction de l'Occident. Tu vois bien que nos pays, ils sont plus endettés que jamais. Tu vois bien qu'on détruit, en fait, toutes les valeurs, on détruit l'éducation, on détruit le système de santé. Donc, on peut être dans le déni tant qu'on veut, mais ceux qui le voient avec clairvoyance, bah, passent à l'action. Donc l'idée, c'est de réaliser comment tu peux, toi, effectuer progressivement cette transition-là. Donc comprendre déjà le monde pour prendre des meilleures décisions de vie. Déjà, c'est un peu ça la base pour moi. Et ensuite, bah, tu définis ta vision, comme on l'a déjà fait. Tu développes ton projet progressivement. Et là aussi, encore une fois, bah, c'est des choses qu'on voit plus en détail. Mais forcément, bah, ça commence par définir un petit peu ton positionnement, ton audience cible, construire une communication, une stratégie de communication qui est cohérente, réfléchir aussi à comment tu vas monétiser dès le début pour que le tout soit cohérent. Bref. Et donc, la sixième étape, je me focalise plus sur le côté effectuer la transition la plus sereine et intelligente possible. Et ça passe par aussi des choses un peu plus pragmatiques. Alors, forcément, faire preuve de clarté, pour moi, ça veut dire notamment bah, se libérer de tout le bruit. Hein. C'est-à-dire que si tu suis les news tous les soirs ou que tu regardes une Netflix tous les soirs, bah, en fait, concrètement, en fait, tu surcharges ton cerveau d'informations qui ne vont pas complètement t'aider en fait, à aller vers quoi tu veux aller. Alors, les personnes vont préférer se dire, et c'est ça qui est la tristesse de l'humanité aujourd'hui, bah c'est pas grave, en fait, je préfère quand même me faire mes séries Netflix et rester dans le statu quo actuellement. Au final, c'est pas si mal, et puis bah, viendra ce que pourra. Mais d'autres personnes, en fait, décident de faire preuve de clarté. Et je pense que si les gens vont de moins en moins bien, c'est parce qu'en fait, on se surcharge le cerveau d'informations inutiles. Ton cerveau, en fait, il a plus de pause. Ton cerveau, il a besoin, c'est prouvé que ton cerveau, il a besoin d'avoir des phases où tu penses à rien, où t'as pas forcément de musique, où t'as pas forcément de bruit, juste une balade et tu peux t'ennuyer. Et c'est dans ces phases-là que ton cerveau, c'est pas pour rien que ton cerveau, il se régénère quand tu dors, tu vois. C'est parce que tu lui laisses, en fait, quelques heures où il n'a pas besoin de gérer autant d'informations. Donc voilà, la clarté, c'est pour moi extrêmement important. On parle aussi beaucoup de la priorisation, parce que bah, Dieu sait que beaucoup de personnes savent en fait tout ce que j'ai raconté là, que c'est intéressant et qu'il faut le faire, mais en fait elles sont perdues entre les priorités et ne priorisent pas bien, et donc se laissent en fait en permanence happer par le temps, et elles se font toujours rattraper par le temps et par les autres obligations. Et puis bah, pour moi, il y a aussi des piliers que j'aborde sur comment réussir sa transition professionnelle. Je précise parce que ce terme-là est beaucoup trop utilisé aujourd'hui et que je valide pas forcément l'autre, mais le fait est que bah, prioriser sa santé au quotidien, c'est des choses évidentes pour moi, c'est travailler sur sa vision, travailler sur ses habitudes quotidiennes. Tout ça, c'est des choses effectivement que j'essaie de transmettre après des années à entreprendre et à gérer, et pour moi, à trouver le meilleur équilibre possible au quotidien pour continuer à avancer sans me laisser bouffer, sans être hyper stressé. Continuer en fait à vraiment prioriser ma santé, mes relations et ce qui compte le plus. Et après, forcément, derrière, bah, ça me permet d'être optimal dans le développement de mon activité, dans le développement de mes projets, etc. Il y a aussi des aspects plus pragmatiques sur la transition un peu plus professionnelle, c'est-à-dire bah, est-ce que ça peut être une option pour toi, par exemple, de bah, réduire ton temps de travail de salarié? Est-ce que tu pourrais potentiellement bénéficier d'aide ou de bourse si tu te lançais dans ton projet? Encore une fois, je sais que on se fait plus que taxer après, donc il faut absolument pas se priver de prendre ce que l'État peut te donner. C'est le seul truc que tu peux attendre de l'État aujourd'hui, c'est le socialisme qui a détruit une société pour moi. Bah, en fait, il faut quand même pouvoir, il y a peut-être des choses que tu peux encore utiliser. Tu vois, moi, j'ai pu toucher des bourses au moment où je me suis lancé. Bah, crois-moi que ça m'a fait plaisir de pouvoir toucher parce que je sais que derrière, bon, j'ai déjà remboursé les bourses plus que plusieurs fois, je pense, avec tout ce que je me fais taxer, mais le fait est que prends ce qu'il y a à prendre pour t'aider à faire cette transition-là au début. J'ai essayé, entre guillemets, de faire le meilleur contenu qui te partage bah, des choses sur lesquelles j'ai beaucoup réfléchi, mais sans non plus De manière un peu survolée. Donc j'espère que ça restait quand même intéressant et relativement clair. Tu en as déjà, si tu as pris des notes par exemple, tu as déjà un petit peu une idée plus claire en fait des 6 étapes que moi je préconise. C'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup réfléchi, j'ai suivi beaucoup d'autres méthodes en fait pour pouvoir faire la meilleure et la plus pragmatique pour moi. Et c'est là en fait qui permet vraiment de s'ancrer dans le réel. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que tu as beaucoup de contenu sur le dev perso aujourd'hui, que j'appelle un peu du dev perso tournant rond. C'est-à-dire, oui, c'est bon, tu peux travailler sur toi pendant des années, pendant 15 ans, mais si ta vie change pas, tu vas pas forcément aller mieux sur tous les aspects. C'est comme, ouais, tu peux faire. Je sais pas, moi, il y a des gens qui vont dire, alors le yoga, c'est bien, ça permet de bouger ton corps, c'est en meilleure santé, et c'est une activité physique, donc c'est positif, et ça permet de se relaxer aussi l'esprit, je suis d'accord. Mais en fait, si tu vis dans un environnement qui est extrêmement stressant, avec un job que tu détestes, avec un entourage que tu détestes, avec une société où tout le monde se juge, où au final tu cours après l'argent, tu peux faire autant de yoga que tu veux. À un moment donné, tu pourras même faire 5 séances de yoga par jour si tu veux pour aller mieux, ça finira quand même par craquer. Donc moi je suis un peu plus partisan oui, le dev perso peut aider, peut sur certains aspects avoir des déclics, etc. Moi-même je pense que ce que je partage est aussi parfois lié à du dev perso. Mais pour moi, le plus important, c'est que ça se traduise par des actions. On dira en anglais execute, c'est vraiment fais les choses, quoi. Il faut que tout ce que tu absorbes, tout ce qui t'aide, en fait, se transforme en des actions, parce que sinon, tu ne fais que repousser une échéance. Et c'est ça que j'essaie de transmettre. Et en tout cas, avec Trouver sa voie, c'était vraiment l'objectif. Dernière petite chose que je veux te dire aussi, si jamais c'est quelque chose que tu veux approfondir, comme je te l'ai dit en début d'épisode, le lien est sous si tu veux aller jeter un œil au programme et en profiter cette semaine à moins 50%, c'est qu'en fait, pour les personnes qui le souhaitent, à la fin du programme, chose que j'ai mise en place aussi, je pense qu'il n'existe pas ailleurs, encore moins à ce prix-là, c'est qu'en fait, si tu veux me suggérer, me présenter ton idée, entre guillemets, finale, une fois que tu as fait tout ce travail-là et que tu auras une idée bien plus claire, parce que moi, c'est la chose auquel je m'engage, je dis pas que ce programme a changé ta vie, mais en tout cas, pour moi, c'est évident que tu vas avoir des pistes de réflexion qui vont être bien plus concrètes après et que tu auras une bonne idée de départ. Moi, c'est même ça que j'ai envie de te dire. En fait, c'est pas ta vocation que tu vas trouver là maintenant, c'est pas celle que tu auras dans 20 ans, dans 10 ans ou dans 40 ans. Parce qu'en fait, il faut un point de départ et ta vocation, en fait, elle va évoluer avec toi. Moi, ma vocation au début, c'était, je sais pas moi, de rédiger des articles de blog, de partager mon voyage, ce que ça m'apportait. Ensuite, ça a été de créer des formations blogging pour partager et aider les autres personnes à peut retrouver plus de liberté et pérenniser un mode de vie plus nomade s'ils le veulent. Et maintenant, c'est même d'aider les gens en fait à comprendre qu'il faut entreprendre pour s'émanciper progressivement du système actuel. Mais derrière, ce projet, il évolue non-stop avec moi. Et c'est ça que je veux te transmettre aussi, c'est avoir juste un point de départ comme moi j'ai eu mon point de départ avec mon blog pour ensuite toi pouvoir pouvoir t'épanouir pleinement en fait et fleurir comme une fleur, j'en sais rien, c'est un peu bête comme idée, mais c'est un peu ça l'idée, c'est que tu puisses vraiment te développer en fait en tant que personne et en tant que personne qui partage les choses et transmet. Et donc pour les personnes qui auraient besoin, parce que je sais que ça a beaucoup de valeur, parce que c'est compliqué au quotidien dans notre entourage, on n'a pas des personnes qui sont parfois dans cette optique-là, mais si tu veux ensuite me présenter ton projet, ton idée de départ en fait, ou même ton projet global à la fin du programme, moi je m'engage à te donner mon avis objectif et honnête sur ça et potentiellement des pistes d'amélioration ou si je pense que c'est une excellente idée. Et donc ça c'est quelque chose qui se fait via un appel, tout ça t'est expliqué dans le programme, donc une fois que tu termines le programme, seulement une fois que tu le termines, que tu as tout appliqué, tu reviens vers moi et moi je m'engage à revenir vers toi avec de vive voix en te disant ça je pense que c'est une excellente idée, vas-y fonce, ou ça je pense que je ferai un peu différemment parce que je suis pas sûr que dans les années à venir ce sera encore pertinent, etc. Donc voilà un petit peu la dernière chose que je voulais te dire. Merci de m'avoir écouté, désolé pour l'épisode un peu plus long que d'habitude, j'espère que c'était intéressant, et puis si tu veux aller jeter un œil, je t'invite à aller jeter un œil, sinon il n'y a vraiment aucune obligation. Et puis moi je te retrouve dans le prochain épisode, je te dis à très vite et surtout n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais.